Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Les frères Cohen, conteurs de l'Amérique. Bonjour à tous et toutes. Depuis plus de 30 ans, le cinéma des frères Cohen offre une réjouissante satire de l'Amérique, peuplée de personnages hauts en couleur, le plus souvent drôles et grotesques, émouvant aussi, plongés dans mille situations scabreuses. Depuis plus de 30 ans, Joel et Ethan Cohen se sont fait les conteurs d'une Amérique de cinéma, faite de décors de carton-pâte et de paysages fantastiques. Car leur cinéma parle surtout de cinéma. Et leurs films sont des films de cinéphiles, d'adolescents qui ont biberonné aux salles obscures du Hollywood de la grande époque, comme en témoigne leur dernier opus, Ave César, qui est sorti le 17 février. Il semble que les frères Cohen n'aient jamais quitté leur enfance, l'émerveillement de voir des protagonistes se débattre dans des fictions où ils ont toujours le mauvais rôle. Mais ils seront toujours sauvés, car les frères Cohen n'ont aucune cruauté pour leurs créatures. Il s'agit pour eux de les voir affronter le monde et de s'en sortir par la volonté de leur créateur. Les frères Cohen sont les artisans inspirés d'un cinéma efficace qui se réapproprie des genres. Le western, le film de gangster, les comédies douces amères à la Capra. Reste que c'est un cinéma difficile à qualifier. Si The Big Lebowski est devenu culte, les autres films des frères Cohen sont connus mais ne sont pas des classiques. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais eu cette ambition. Peut-être parce qu'il s'agit surtout de fabriquer de beaux objets plaisants qui racontent une belle histoire de cinéma ou du cinéma avec un vrai amour des acteurs mais sans prétendre rivaliser avec les grands modèles. Entre Barton Fink, Palme d'Or à Cannes en 1991, Fargo, O Brother et No Country for Old Men, il y a cependant une filmographie de très grande qualité. Cette filmographie, nous allons l'explorer avec une spécialiste des frères Cohen, Julie Assouli. Bonjour Julie Assouli.
Bonjour.
Julie Assouli, vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'université d'Artois, à Arras. Vous êtes spécialiste du cinéma des frères Cohen et de celui de Wes Anderson, à partir desquels vous analysez les représentations des mythes américains et l'écriture de ce qu'on appelle l'Americana. Et vous venez de rééditer aux éditions du CNRS une très belle somme intitulée « L'Amérique des frères Cohen » qui est l'objet de votre invitation aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence très classiquement, mais peut-être par quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. C'est au fond, d'où viennent les frères Cohen? Qui sont-ils?
Alors, les frères Cohen sont nés dans le Minnesota. Donc, ce sont des frères qui ont à peine 3 ans d'écart. Donc, ils sont très proches en âge. Ils ont grandi dans un milieu très fermé et très protégé, au sein d'une famille très intellectuelle. Donc, le père était professeur d'université, professeur d'économie. La mère était professeur d'art dans le secondaire. Donc, ils ont été bercés de culture très, très jeunes. Et surtout, le fait d'avoir été les seuls juifs, les seuls représentants de la communauté juive dans voisinage, les a un petit peu mis à l'écart. Mmh. Et donc, ils ont vraiment grandi tous les deux dans un milieu assez confiné. Et ils sont devenus très cinéphiles parce que justement, ils percevaient le milieu extérieur comme assez hostile. Alors le Minnesota, c'est un état qui est très très froid. Et donc, qui les poussait un peu à passer beaucoup de temps à l'intérieur, dans leur maison, et à regarder des rediffusions de téléfilms, de films classiques hollywoodiens, justement, qui vont par la suite les inspirer pour leur film.
Ils se sont nourris de tout ça. Et on a l'impression que ce sont d'éternels adolescents quand on les voit dans leur look, mais ils vont un peu vers leur soixantaine maintenant.
Oui, hein, ils sont nés dans, l'un est né en 54, je crois, l'autre en 57.
Ouais.
Donc oui, c'est plus des adolescents, mais ils continuent à faire des films comme quand ils étaient très tout jeunes. Hein. Ils ont commencé à faire des films quand ils avaient 10 ans, mm-hmm, avec une caméra Super 8. Et déjà, leurs premiers essais, leurs premiers films étaient des satires politiques. Ils parlaient de la valise diplomatique, ils parlaient de la guerre froide. Donc ils ont déjà commencé à former leur humour noir et leur humour satirique dès leurs premiers essais en tant que cinéastes amateurs quand ils avaient 10-12 ans.
Ils vont se rapprocher, ils vont être scénaristes d'un cinéaste qui s'appelle Sam Raimi, qui appartient un peu au courant film indépendant, film un peu trash. Et ça c'est quelque chose d'assez marquant marquant. C'est-à-dire qu'au fond, leur univers, il commence à s'inventer à cet endroit-là.
Oui, alors ils ont suivi un parcours universitaire différent. Donc le Joel, lui, va étudier directement le cinéma. Il va aller à l'université de New York pour étudier le cinéma. Mais Ethan, lui, ira à Princeton pour faire de la philosophie. Donc ils se retrouvent après leurs études, après avoir obtenu un master, ils vont se retrouver pour faire du cinéma ensemble. Mais ils ont eu un parcours scolaire différent. Et en fait, c'est à NYU, donc à l'université de New York, que Joel Cohen rencontre Sam Raimi. Et comme vous le disiez, Sam Raimi fait partie de cette veine de cinéastes indépendants des années 80 qui vont se lancer grâce aux films d'horreur. Mm-hmm. Parce que le film d'horreur est le genre qui est le moins coûteux. Donc quand on débutait dans les années 80 et quand on voulait s'autoproduire, on commençait par du film d'horreur. Donc Sam Raimi a travaillé sur The Evil Dead.
Mm-hmm. Qui sera un succès.
Qui sera un grand succès.
Extraordinaire.
Voilà, qui sera un grand succès et sur lequel Joel Cohen a collaboré. Donc c'est
d'accord.
Ça qu'ils se sont rencontrés.
Ce sont des cinéastes qui font tout. Enfin, on a l'impression qu'ils font tout dans leurs films. Et vous dites dans votre livre, Julie Assouli, que ils font même le montage, mais sous un faux nom. Enfin, c'est anecdotique, mais en même temps, l'idée, c'est qu'ils contrôlent la production du film.
Oui, je pense que c'est ce qui leur confère le statut d'auteur, le fait que ils contrôlent leur film de A à Z. Donc du casting au costume, en passant par les décors. Alors, ce qui est assez intéressant dans leur méthode de travail, c'est qu'ils ont une idée très précise de ce à quoi va ressembler le film dès l'écriture du scénario. Donc, ils vont écrire le scénario à deux, ils vont réaliser à deux, donc ils font absolument tout à deux. Et dès l'écriture du scénario, ils ont les plans en tête. Et donc, ils vont utiliser des storyboards, toujours, systématiquement.
Donc des dessins, le film dessiné.
Voilà, donc leur film est storyboardé dès la réalisation l'achèvement du scénario. Et donc, dans ces storyboards, on a des plans très, très précis de ce qu'ils veulent obtenir. Et de nombreux acteurs ont témoigné sur leur collaboration avec les frères Cohen et ont dit qu'ils ne changeaient que très rarement ce qu'ils avaient prévu de faire sur le storyboard.
Ils ont une vision très claire dès le départ.
Voilà. Ils ont une vision imagée de ce qu'ils écrivent.
Ouais, donc vraiment une écriture de l'image et du cinéma.
Exactement.
Alors on le disait, ils ont biberonné à la télévision, au cinéma classique, noir et blanc, etc. Et vous dites dans votre ouvrage, Julie Assouli, que au fond, ce sont des cinéastes qui empruntent plein de choses. Alors, ils empruntent quoi ? Ils empruntent plein d'éléments de la culture américaine, c'est ça l'idée, ou de l'imagerie américaine ? Norman Rockwell, enfin.
Alors, je sais pas vraiment en fait s'ils font des emprunts, si ce sont des emprunts conscients ou inconscients. Pour certains, je pense que pour ce qui est de Rockwell, c'est conscient. Par exemple, si vous prenez O Brother, c'est un film qui est très documenté, c'est un film qui se déroule pendant la Grande Dépression, et ils ont manifestement utilisé toutes les photographies de la Farm Security Administration.
Ouais, il faut nous raconter ça, c'est-à-dire qu'on a le gouvernement américain a envoyé des gens faire des photos.
Exactement.
De ce qui se passait.
C'est des photographes comme Dorothea Lange ou Walker Evans qui ont été mandatés par Roosevelt pour aller faire une enquête sur l'état du Dust Bowl, donc de ces états, des états les plus touchés par la dépression et par la sécheresse. Donc ces photographes ont fait office d'enquêteurs pour le compte du gouvernement et ont ramené tout un panel de photographies très intéressantes qui justement ont pu servir aux frères Cohen pour réaliser leur toile de fond historique, la toile de fond historique de Oh Brother. Et l'utilisation de ces images existantes va jusqu'au mimétisme. Dans certains plans de Brothers sont des plans, des copies exactes de
ces photos-là.
Oui, des photos de, par exemple, de Floyd Burrows. Donc, c'était le modèle, un des modèles de Walker Evans.
Qui était un fermier. Avec la salopette traditionnelle, le visage buriné.
Exactement.
Par le soleil.
Donc, ils ont reproduit à l'identique. Donc là, c'est vraiment de l'ordre de la citation picturale. Oui.
Et donc, du coup, quand les films sont vus, ces éléments iconiques, au fond, sont immédiatement perçus par le public américain. C'est au fond le film est très familier très vite.
Alors là est justement toute la toute la difficulté d'interpréter les films des frères Coen, c'est que ça dépend énormément de votre bagage culturel. L'Américain moyen, par exemple, ne va pas nécessairement reconnaître les photos de la Farm Security Administration. Moi, qui étudie l'histoire des États-Unis, ben, je l'ai reconnu, mais quelqu'un qui ne n'étudie pas l'histoire des États-Unis ou qui n'est pas familier avec cette culture-là, va passer à côté de la référence. Et donc, c'est en cela que les films des frères Coen sont intéressants. On peut les interpréter de façon très différente selon notre bagage culturel. C'est la même chose avec Norman Rockwell. Donc Norman Rockwell, qui est un illustrateur, peintre réaliste, qui faisait les couvertures du Saturday Evening Post, donc qui a réalisé ses couvertures pendant des décennies, qui était très très bon, qui est très connu des Américains. Lui, va être peut-être plus reconnaissable par l'Américain moyen, puisque ses productions font partie de la culture populaire et de l'inconscient collectif américain. En revanche, ses références ne seront pas reconnues nécessairement par le spectateur français. Et il m'est arrivé de faire des conférences donc sur l'influence de Rockwell dans les films des frères Coen et de discuter avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Norman Rockwell. Donc
c'est un cinéma de la citation avec plusieurs couches, mais ça, on y entre comme on peut.
Voilà, les références sont pas toujours facilement déchiffrables, mais elles sont là.
Vous dites aussi que c'est un cinéma de l'américanité. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, c'est au fond cet attachement à la frontière de l'Ouest, au grand paysage, au Sud américain.
Oui, c'est. Je pense que il réinterprète les mythes de l'Amérique, les mythes fondateurs de l'Amérique. Donc, vous parliez de la frontière. La frontière est un des principaux mythes fondateurs de l'Amérique. Et ils vont ils vont réinvestir ce mythe et le retourner ou le détourner, en fait, pour mieux en montrer les vices, pour mieux en montrer les failles. Donc le cinéma des frères Coen est un cinéma qui montre les failles de la société américaine de façon plus ou moins sérieuse.
Il montre que c'est dysfonctionnel, que c'est une Amérique qui va pas très bien quand on descend, entre guillemets, au niveau de l'individu moyen.
Voilà, leur définition de la frontière va toujours passer par un dérèglement. Un dérèglement du paysage, un dérèglement donc par rapport à la frontière telle qu'elle était représentée dans les westerns classiques, par exemple, la frontière des frères Coen va plutôt être de l'ordre du western révisionniste. Elle va plutôt être de l'ordre du western spaghetti. Donc où on va plutôt mettre l'accent sur le problème que représente la frontière et la menace que représente le territoire américain sur les protagonistes.
Et non pas la conquête glorieuse.
Exactement.
Ouais.
Donc c'est un renversement, en fait, du mythe de la frontière.
Si on reste sur cette idée d'américanité, il y a aussi dans quasiment tous leurs films une manière de revisiter des symboles ou des objets. Je pense par exemple au cerceau, alors des objets qui ont façonné l'Amérique de l'après-guerre en particulier. Je pense par exemple au cerceau dans Le Grand Saut, qui est un film pas très très connu, mais il y a quasiment le même statut pour la boule de bowling dans The Big Lebowski.
Oui, il y a tout un tas d'icônes américaines, donc de l'imagerie américaine qui sont réhabilitées et qui sont également perverties par les frères Coen. Donc on a le hula hoop dans Le Grand Saut, la boule de bowling comme vous le disiez dans The Big Lebowski. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le mythe visuel de l'Americana. Donc l'Americana, c'est tout ce qui est censé représenter l'Amérique typique, tout ce qui aux yeux de l'Américain moyen ou d'un Européen va représenter l'Amérique, la bouteille de coca, le drive-in, les diners.
Une sorte de folklore symbolique, mais voilà. Une imagerie en tout cas.
Toutes ces choses en fait qui représentent les images typiques de l'Amérique. Donc les frères Coen vont s'emparer de cette imagerie, vont la réinvestir. Donc il y a énormément de scènes qui se passent dans des diners. Et ces diners sont vraiment des reliques de l'Amérique des années 50. Mais ils vont y injecter le mal. Donc ils vont à nouveau retourner le mythe américain en faisant intervenir par exemple des tueurs dans un diner's ou dans une Waffle House.
Quelque chose se détraque en fait, c'est-à-dire que cette imagerie est réinvestie par des éléments qui la font dysfonctionner ou qui la font devenir, qui la retournent.
Et le bowling par exemple, le bowling qui est le loisir familial par excellence va devenir le théâtre de conflits avec le vétéran du Vietnam interprété par John Goodman qui va menacer de son arme de tuer un de un de ses adversaires parce qu'il a franchi la ligne.
Et ils sont attaqués d'ailleurs à la fin du film.
Ils sont attaqués par les nihilistes. Voilà, et la boule de bowling devient une arme. Donc il y a également une allégorie sexuelle donc dans un des fantasmes de Lebowski avec Maud. Donc on va carrément voir une séance de bowling se transformer en séance donc en scène érotique. À peine caché.
Et très bien suggéré. Cette américanité, elle est aussi mise en scène par le biais d'un certain nombre de personnages. Et il y a des personnages qui sont très ressemblants d'un film à l'autre des frères Cohen, qui sont, alors, c'est un peu compliqué à qualifier, mais qui seraient un peu des losers. Alors, pas forcément des perdants magnifiques, mais juste des perdants, des gens un peu grotesques. Et puis, vous dites, Julie Assouli, dans cette petite part de culture juive, le personnage du Schlemiel, propre au conte Ashkenaz d'Europe centrale, il y a cette dimension-là
Ah oui, alors ils ont énormément de références différentes pour la construction de leur personnage, dont donc ce personnage de Schlemiel qui est le loser de l'imaginaire, enfin des contes juifs, hein, des contes du shtetl. Et donc ce loser est une personne qui va attirer sur lui tous les tracas. Donc ce Schlemiel, au final, il est présent dans énormément de films hollywoodiens, dont tous les slapsticks, tous les films donc toutes les comédies américaines de l'ère classique où le héros se prend des tartes à la crème, se prend des coups de bâton. Exactement. Ouais. Donc c'est Buster Keaton est une forme de Schlemiel. C'est le personnage qui va, quoi qu'il fasse, s'attirer des ennuis.
Mais qui est en même temps touchant, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vaut plus que les malheurs qui lui arrivent.
Voilà, qui a quand même un côté attachant parce que c'est pas un personnage malveillant. Donc
il est débordé par les événements.
Voilà, donc le problème en fait des personnages des frères Cohen, c'est qu'ils se retrouvent dans des situations qui les dépassent. Donc ils ne sont pas armés pour faire face aux situations dans lesquelles on les met. Et c'est ce qui les rend losers entre guillemets, ils deviennent des perdants parce que la situation est perdue d'avance et qu'ils ils sont trop innocents et ils ne sont pas assez armés pour faire face à la situation.
Il va falloir traverser tout le film pour essayer de voir comment s'en sortir.
Au final le Schlemiel, c'est aussi ça qu'il définit, c'est le fait que c'est un personnage naïf et c'est un personnage assez candide qui ne va pas avoir les armes pour affronter une société cruelle, et la société américaine est assez cruelle dans les films des frères Cohen.
On va écouter Hang Me Oh Hang Me, chanté par l'acteur Oscar Isaac à l'occasion du film Inside Llewyn Davis.
Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas, all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry I could hide behind the straw. Poor boy, I've been all around this world. There I made my stand. Went up on the mountain. There I made my stand. Rifle on my shoulder and the dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world. So
valeur de l'homme, les frères Cohen, conteurs de l'Amérique. Nous sommes en compagnie de Julie Assouli. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Julie Assouli?
Alors, on vient d'entendre Oscar Isaac, qui interprète un standard de la scène folk des années 60, qui est Hang Me, et donc qui a été composé par Dave Van Ronk. Donc, Dave Van Ronk, qui était très connu donc dans les années 60 à New York pour avoir lancé tout un tas d'artistes, et notamment Bob Dylan. Et donc, ce qui est intéressant dans Inside Llewyn Davis, des frères Cohen, c'est qu'ils se sont inspirés donc de la vie de Bob Dylan et ont prétendu adapter la biographie de Dave Van Ronk, qui est The Mayor of MacDougall Street, donc le maire de MacDougall Street. Mm-hmm. Et donc, c'est assez symptomatique de ce qu'ils ont l'habitude de faire, en fait. Ils ont souvent l'habitude de brouiller les pistes. Ils vont prétendre adapter quelque chose et, en fait, aller piocher un petit peu dans différentes sources. Et pour Inside Llewyn Davis, c'est assez amusant d'essayer de déterminer la part de la vie de Van Ronk dans le film et de la vie de Dylan. Parce que, finalement, ils se sont servis des deux artistes pour faire leur héros, ouais, Llewyn Davis.
C'est des faux films à clé. Enfin, c'est des films à clé, mais dont les clés sont un peu troublées, voilà, au départ. On ne sait pas.
Exactement.
Comment
et,
ça connaît.
Donc, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. Hein. Ils sont très, très littéraires. Donc, ils vont réinvestir toute leur culture littéraire, toute leur culture aussi philosophique ou sociologique dans leurs films et vont avoir tendance à, justement, mélanger les sources et brouiller les pistes.
Je voudrais qu'on s'arrête sur un film qui est devenu culte, des frères Cohen, qui s'appelle The Big Lebowski. Alors, on va pas s'interroger sur pourquoi il est devenu culte, parce que c'est toujours très compliqué, il a été investi. Mais il est intéressant parce que j'ai la sensation qu'il, au fond, réalise la synthèse d'une grande partie du cinéma des frères Cohen. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est-à-dire le héros principal, les événements, les mythes, etc. Est-ce qu'on peut dire ça sur The Big Lebowski, qui au fond, reprendrait tout? Ou est-ce qu'il faut nuancer
Je pense qu'il faut quand même nuancer un peu parce que The Big Lebowski, ça reste un film assez hors norme et ça reste une comédie. Et bon, pour beaucoup de gens, les frères Cohen sont aussi des réalisateurs de thrillers. Mm-hmm. Enfin, c'est des réalisateurs. Enfin, ce qui est le plus prégnant chez les frères Cohen dans toute leur filmographie, c'est le film noir, c'est les références au film noir. Donc, ils commencent leur carrière par 100% Blood Simple, mm-hmm, qui est un film néo-noir, donc un film noir des années 80. Ils réinvestissent les codes du film noir pour revisiter le genre. Et ce rapport au film noir va se poursuivre dans toute leur carrière. Dans The Big Lebowski, il y a un pastiche de film noir, il y a un élément de film noir, il y a un détective, hein, il y a une enquête, donc il y a cette petite référence. Mais pour ma part, je pense au film des frères Cohen comme des films dont la violence est souvent et le rapport genre au genre noir est ce qu'il y a de plus prégnant. Et dans The Big Lebowski, c'est pas aussi évident. Mm-hmm. Donc il est difficile en fait de trouver un film dans leur filmographie qui va résumer leur carrière.
Ouais, et alors l'ensemble de la filmographie.
Ouais, je serais nuancée en fait sur l'idée que The Big Lebowski résume toute leur carrière. Après bon, il y a énormément de choses qui reviennent dans The Big Lebowski, c'est-à-dire donc les losers dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi bon la violence dont on a fait mention, il y a des scènes assez violentes, l'humour noir, la satire. Oui, mais il manque quand même
une profondeur peut-être,
ouais, hein,
ou des références au genre.
Oui, cette profondeur qu'on va retrouver dans No Country for Old Men par exemple. Mmh. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que The Big Lebowski a pas eu un grand succès quand il est sorti, donc il a eu accès au rang de film culte après, en fait,
hein,
plus tardivement,
ouais,
à sa sortie DVD, et de part surtout tous les événements qui se sont greffés autour du film, donc les festivals Big Lebowski,
oui, avec les vêtements,
voilà. Je pense que c'est un peu un film folklore et c'est un film revival des années 60, revival de la période 68arde des hippies. Donc ça revisite la contre-culture américaine en fait de façon loufoque et c'est ce qui a en particulier plu à de nombreux spectateurs dont beaucoup de jeunes et beaucoup de 68 arts.
Ouais, qui se sont retrouvés dans ces personnages post-hippie.
Voilà.
D'accord. Si on reste sur l'idée que vous développiez à l'instant de aucun film au fond n'est représentatif de l'œuvre des frères Cohen, mais il faut prendre la filmographie en entier. Est-ce qu'on peut, alors question Julie Assouli très française, en tout cas relative à la cinéphilie française, est-ce qu'on peut dire que les frères Cohen sont des auteurs au sens du cinéma d'auteur défendu historiquement par exemple par les Cahiers du cinéma
Ah oui, complètement. Pour moi, les frères Cohen sont des auteurs. Je pense qu'ils accèdent au statut d'auteur dès l'instant où ils réalisent un cinéma qui n'a pas d'égal. Donc, il me semble que avant eux, personne n'avait fait le type. Personne ne peut être comparé aux frères Cohen, parce que justement, à cause de ce qu'on disait en début d'émission, du fait qu'ils contrôlent complètement leurs films, du fait qu'ils aient une totale liberté sur leurs films, et leur statut d'auteur, ils l'ont acquis en restant à la marge d'Hollywood. Alors, ce qui est intéressant chez eux, c'est justement qu'ils vont faire des films très intimes, produits avec très très peu de budget, avec des petites, Working Title n'est pas une petite maison de production. Hein, maintenant, au contraire, c'est une maison de production qui marche très bien. Mais lorsqu'ils ont fait leur premier film avec eux, ils étaient peu connus. Ils ont fait ce choix de travailler avec des producteurs moins connus pour justement garder cette indépendance. Et le fait, ils ont accédé au succès en ayant la Palme d'Or à Cannes. Ensuite, ils ont eu un Oscar pour Fargo. Et dès l'instant où ils ont eu cet Oscar pour Fargo, ils sont devenus, comme on dit dans le jargon, bankable.
Ouais, c'est-à-dire rentables.
Ils sont devenus rentables. Et donc, les studios hollywoodiens se sont intéressés à eux. Mais contrairement à beaucoup de réalisateurs qui se sont formatés, se sont adaptés au désir d'un public et au désir d'un studio, même dans leurs films les plus commerciaux, comme Intolérable cruauté, comme The Lady Killers, même dans ces films-là, les frères Cohen vont garder leurs pattes, ils vont garder leur libre arbitre, ils vont garder leur humour noir, ils vont se permettre de renverser les codes des genres, ils vont se permettre de tuer un protagoniste comme Brad Pitt dans Burn After Reading en plein milieu du film, ce qui ne se fait absolument pas dans les comédies hollywoodiennes type blockbuster.
Cette manière de dynamiter les codes, c'est ce que vous appelez, Julie Assouli, un cinéma post-moderne, c'est ça ? Comment on pourrait qualifier ce...
L'étiquette postmoderne est assez délicate à manipuler.
J'imagine.
C'est un fourre-tout que beaucoup de gens aiment utiliser. Donc, beaucoup de critiques disent que les frères Cohen peuvent être rangés sous le label du postmoderne, du cinéma postmoderne, parce que ils vont faire des références, beaucoup de références à des films connus, et qu'il y a donc cette dimension de la citation de films connus, cette dimension de déchiffrage. Donc, qui va les rapprocher de ce qu'on peut appeler le postmodernisme. Il y a également le fait que c'est un cinéma assez participatif, où on va être complètement investi dans le film. Et donc, dans l'étiquette postmoderne, il y a aussi cette dimension d'expérience cinématographique. Et effectivement, quand on est plongé dans un film des frères Cohen, on a cette expérience cinématographique.
On rentre dans un univers,
tout à fait.
Ouais, et qui permet, enfin qui est assez jubilatoire, et où on est guidé par les réalisateurs.
Voilà, c'est une immersion dans leur imaginaire et dans un imaginaire qu'ils ont eux-mêmes construit. Donc ça rejoint aussi la dimension d'auteur.
Merci beaucoup Julie Assouli, cette émission s'achève. Merci de votre présence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Amérique des frères Cohen, c'est paru aux éditions du CNRS en 2015. Merci également à Emmanuel Demisco à la technique, et à dans 15 jours pour une prochaine émission. À bientôt.